tous et à toutes, au micro Paul Ouzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Chers auditeurs, à Bahreïn, le 25 et le 26 juin dernier, Jared Kushner a présenté le nouveau plan des États-Unis destiné à résoudre le conflit israélo-palestinien. Devant un parterre de représentants des pays arabes, sunnites, de délégués américains et européens, le beau-fils de Donald Trump a détaillé son programme économique intitulé « La paix et la prospérité ». On s'est étonné qu'à cette rencontre, les Israéliens et les Palestiniens ne soient pas invités. Cependant, une délégation juive officieuse était bien présente, ainsi qu'une délégation palestinienne quasiment clandestine, puisque le président Mahmoud Abbas s'oppose fortement à ce plan. Autre incongruité, la diplomatie et la politique étaient absentes également. Le plan de paix américain se présente comme une série d'actions destinées au développement de la société palestinienne. Ces trois axes sont libérer le potentiel économique, c'est-à-dire investir dans les infrastructures publiques et les entreprises privées, donner à la population la possibilité de réaliser ses ambitions, c'est-à-dire améliorer l'ensemble du système éducatif et du système de santé, améliorer la gouvernance de l'État, c'est-à-dire créer un système judiciaire indépendant et une administration au service des habitants qui garantissent le respect de la propriété et une vraie fiscalité. Pour réaliser ce plan de paix, 50 milliards de dollars devaient être levés, soit 45 milliards d'euros qui permettraient la création d'un million d'emplois. Mais est-ce bien réaliste de faire passer l'économie avant la diplomatie ? Quel prix politique les uns et les autres paieront pour récolter la manne ? Car le plan de paix vers la prospérité concerne tous les voisins de la Cisjordanie et en premier lieu Israël. Pour nous aider à évaluer la pertinence de cet énième plan de paix, nous allons nous tourner vers Frédéric Ancel. Frédéric Ancel est docteur en géopolitique, professeur à Sciences Po Paris et à l'Institut des hautes études de défense nationale. Il a publié plusieurs ouvrages sur le Moyen-Orient et Jérusalem. Son dernier livre est une réédition de l'Atlas géopolitique d'Israël aux éditions Autrement. Frédéric Ancel, vous m'entendez ? Alors là, il y a un petit problème avec Frédéric Ancel. On le rappelle et il arrive. Allô, allô, Frédéric Ancel, vous êtes là ? Voilà, voilà. Donc, comme je vous le disais, nous allons voir un peu ce plan économique de Jared Kushner qui est destiné à développer la population palestinienne, mais qui n'a aucun impact politique pour l'instant. Et ce qui était assez étonnant, c'est que les Israéliens et les Palestiniens n'étaient pas officiellement invités. Il y avait plusieurs États sunnites. Ok, Frédéric Ancel, vous êtes là ? Frédéric Ancel ? Allô, allô ?
Oui.
Frédéric Ancel, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Bonjour Frédéric Ancel. Merci d'être avec nous. Alors, nous voilà en présence d'un nouveau plan de paix américain pour Israël et la Palestine. Vous qui venez de participer ce week-end aux rencontres géopolitiques de Trouville sur le thème des frontières, qui est bien d'actualité, est-ce que vous jugez crédible l'approche essentiellement économique de Jared Kushner ? Et puis, on se pose tous la question, pourquoi présenter séparément aspect politique et économique et l'économique d'avant ?
Alors, plusieurs choses dans votre question. D'abord, on ne sait pas grand-chose de ce plan. Et le vrai problème, et ce qu'on sait pour le coup de manière tout à fait certaine, c'est qu'il devait être publié voilà déjà 2 ans. Donc on a l'illustration manifeste du manque de crédibilité et de sérieux du président américain. Ça c'est une certitude. Vous ne pouvez pas, lorsque vous dirigez la première puissance mondiale et que vous prétendez, alors qu'on vous a demandé grand-chose, vous prétendez régler le problème, et de manière définitive, parce qu'il appelle ça comme le deal du siècle, hein, de manière définitive et non pas via une politique des petits pas à la Kissinger, régler un problème aussi complexe, vous le faites quoi. Vous proposez quelque chose, ensuite on est d'accord ou pas. Bon, ça fait plus de 2 ans qu'on attend ce plan. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et vous avez raison de le souligner, pour l'instant, on n'en a que l'un des deux volets. Remarquez, c'est déjà ça, c'est le volet économique. Sauf que c'est pas le principal. c'est pas le plus important. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer les conditions d'une paix plus ou moins durable ou la plus pérenne possible prioritairement avec en alignant des zéros et des milliards. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous avez d'abord des revendications localement, vous avez des revendications de nature identitaire, à commencer par la frontière. Et merci de me faire l'amitié de rappeler qu'effectivement, à ces rencontres annuelles de Trouville-sur-Mer, on a parlé de la frontière. D'ailleurs, la plupart des intervenants, qui étaient de très haut niveau, n'ont pas vraiment parlé de ce plan, pour une raison simple, c'est que on n'en connaît pas le linéament frontalier. Okay, donc on a quelques idées. Bon, vaguement, le nord-est du Sinaï peut-être, un morceau de Jordanie, mais tout ça est extrêmement flou. Et donc, du coup, le volet économique, lui, bah, si vous voulez, dans l'absolu, il est relativement crédible. Pourquoi ? Parce que quand vous alignez 50 milliards de dollars d'un coup, ce qui d'ailleurs n'est pas faramineux, c'est beaucoup, mais c'est pas faramineux. Hein. Bon. Donc, vous alignez 50 milliards pour des populations, somme toute, relativement modestes sur le plan démographique. Bon, les Palestiniens sont quelques millions, les Israéliens un petit peu plus, les Jordaniens à peine moins. Bon. Donc, on n'a pas des populations très importantes. Donc, c'est pas mal. Oui, c'est beaucoup d'argent. Et oui, vraisemblablement, c'est le seul point positif, à mon avis, de ce premier volet, de cette première annonce. Oui, vraisemblablement, les États du Golfe, rivés dans leur rivalité avec l'Iran d'une part, le Japon, parce que le Japon a besoin de la tranquillité dans la région, comme la Chine d'ailleurs, parce que le pétrole, évidemment, il en est totalement dépendant. Bon, l'Union Européenne, comme d'habitude, ils interviennent pas politiquement, ils interviennent économiquement. Donc oui, l'Union Européenne mettra au pot aussi, et sans doute un peu l'Amérique du Nord. Oui, ça peut marcher ça, mais encore une fois, ça ne suffit pas. Et je vous dirais, pour résumer, qu'on met la charrue avant les bœufs. Un processus de paix, c'est d'abord des questions politiques, c'est des questions diplomatiques, ce sont des questions stratégiques, ce sont des questions identitaires.
Très bien. On est parti sur une critique assez, assez vive. Je voudrais vous demander, cependant, Jared Kushner a promis qu'il présenterait les aspects politiques de son plan plus tard. Alors effectivement, vous nous dites que depuis 2 ans, on attend. Mais est-ce qu'on a une idée de son contenu ? Quel pourrait-il être ? Et puis, quel sera le prix à payer pour Israël et les Palestiniens, et puis les pays arabes voisins également, parce que ça concerne aussi l'Égypte, la Jordanie, le Liban, c'est écrit dans son plan. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez une idée comme ça, vous qui êtes géopolitologue et qui travaillez depuis longtemps sur le Moyen-Orient et Israël, est-ce que vous avez une idée de ce que va demander le président Trump aux Israéliens, aux Palestiniens et aux pays arabes limitrophes ?
On en a quelques linéaments. C'est-à-dire que, d'abord, vous avez raison de rappeler que Jared Kushner dit plus tard. Oui, mais d'accord, plus tard, ça fait 2 ans que c'est plus tard. Donc ça, j'y reviens pas, mais enfin, c'est quand même, ça dénote un amateurisme qui est quand même extrêmement problématique à Washington, quoi. Bon, alors, maintenant, ce qu'on va demander aux uns et aux autres. Alors, pour être très honnête, on voit pas très bien pour l'instant ce que le président américain va demander à Israël. Alors, bien sûr, qu'il y ait non pas un État, mais une autonomie palestinienne, mais ça, je dirais que c'est quasiment fait, en tout cas dans la zone A, c'est-à-dire dans à l'intérieur des 7 grandes villes palestiniennes de Cisjordanie. Bon. Donc ça, c'est à peu près fait. Alors, Gaza étant un cas à part, parce que les Israéliens sont retirés de Gaza. Bon. Ensuite, il est vraisemblable que le nord-est du Sinaï soit couvert à Gaza. Alors le problème, c'est que l'Égypte ne va certainement pas renoncer à sa souveraineté sur la moindre parcelle de son territoire, mais alors ça peut faire l'objet peut-être d'une zone autonome ou en tout cas dans laquelle les Palestiniens de Gaza pourraient s'ouvrir en quelque sorte, déambuler, travailler, vivre, construire peut-être. C'est au niveau d'Al-Arish, hein, pour vos auditeurs. Oui. Je doute fortement hein, que le Caire puisse accepter, mais enfin, on verra bien. En tout cas, ça, c'est prévu parce que Gaza, dans l'état actuel, dans son état actuel, c'est extrêmement problématique. Bon. Donc, vous avez de l'autre côté, en Jordanie, une injonction, en tout cas une demande américaine, alors qui n'est pas nouvelle, hein, auprès des autorités bidouines, hein, donc du royaume hachémite, de récupérer, alors dans un statut encore une fois autonome, confédéral, tout ou partie des territoires palestiniens, enfin fortement peuplés de Palestiniens en Cisjordanie. Bon, ça c'est une vieille idée, d'ailleurs, c'est pas une idée de droite en Israël, c'est une idée de gauche, hein, c'est Peres, hein, qui dans les années 70 l'avait développé, cette espèce de confédération avec la Jordanie.
Bon. On s'en souvient.
Bah oui, alors si vous voulez, il y a déjà une majorité de Palestiniens en Jordanie. Moi, je ne suis pas certain que dans le cadre de la souveraineté de ce royaume, le roi Abdallah II accepte encore 2 millions de Palestiniens supplémentaires. Si vous voulez, Il y aurait les inconvénients sans les avantages. Les inconvénients d'avoir une population qui lui sera peut-être loyale et fidèle, mais c'est pas certain, et en tout cas qui n'est bien évidemment pas bédouine, et d'autre part, sans les territoires qui vont avec. Bon. Donc je crois que ça, c'est extrêmement compliqué. Pour les réfugiés, fils et petits-fils de réfugiés palestiniens au Liban, là c'est mon point de vue économique qui joue. Il est vraisemblable qu'il y aura quand même aussi une proposition visant à qu'un certain nombre de Palestiniens, donc réfugiés de 48, puissent se rendre dans des zones où ils avaient vécu à l'époque. Ça concerne très très peu de personnes par définition encore vivantes aujourd'hui. Et là, pour le coup, il n'est pas du tout sûr que les Israéliens acceptent que ces gens viennent ou reviennent sur le territoire israélien stricto sensu d'aujourd'hui. C'est même improbable, sauf s'il s'agit de quelques milliers de personnes qui étaient déjà propriétaires à l'époque. Bon, vous comprenez bien que ça va concerner une poignée de vénérables vieillards. Bon, c'est pas très important. Oui, donc je vois pas très bien ce qu'on va demander à Israël. Je vois à peu près ce qu'on va demander aux Palestiniens, c'est-à-dire l'absence d'un État, le renoncement à un État en échange d'un programme économique et de relogement et de promotion très important, manifestement. Et puis, aux États du Golfe, on demande de payer. Il n'y a pas d'interaction territoriale, frontalière, avec les États du Golfe. Hein, ça concerne essentiellement l'Égypte et la Jordanie.
Peut-être une reconnaissance de l'État d'Israël par les pays du Golfe, et notamment l'Arabie Saoudite.
Ça, de toute façon, je pense que c'est non seulement prévu par les Américains, attendu par les Israéliens, même si je pense qu'il ne faut pas fantasmer de manière messianique cette attente israélienne. Israélien, globalement, lorsque vous leur posez la question de savoir s'ils souhaitent que Oman, dont ils ne savent pas très bien où se trouve ce pays, hein, bon, le Koweït et autres Émirats arabes unis le reconnaissent la souveraineté. Enfin, l'État d'Israël, franchement, ça les... Bon. Regardez, les Israéliens n'ont même pas manifesté de joie dans la rue lorsque Trump lui-même, le président américain, a reconnu la souveraineté sur le Golan. Pourquoi ? Parce que les Israéliens considèrent que c'est à eux, puis c'est qu'on le reconnaisse ou pas, au fond, ils s'en fichent un petit peu. Donc, à fortiori, et à plus forte raison, pour de modestes États du Golfe. Donc, oui, il y aurait quand même cette reconnaissance, mais je pense que c'est de moins en moins difficile et de plus en plus officieusement acté. Hein, regardez à quel point aujourd'hui, il y a de plus en plus de mots chaleureux, de contacts directs, et d'ailleurs de commerce.
Il y a beaucoup de business,
Mais oui, tout à fait formel, notamment avec les Émirats. D'ailleurs, c'est pas nouveau avec d'autres pays très modérés comme le Maroc, bien sûr. Bon, donc ça existe déjà, mais effectivement, ce serait une formalisation.
Alors, vous parliez de souveraineté, Frédéric Ancel. Est-ce qu'on peut parvenir à un accord de paix avec un partenaire qui est fortement opposé, c'est l'autorité palestinienne, et puis et on n'évoque pas sa souveraineté? On construit quelque chose en le critiquant même. C'est-à-dire que quand vous lisez le plan économique, toute la partie sur la gouvernance, elle est quand même assez critique, implicitement. Hein, il dit, il faut construire la gouvernance parce qu'elle n'existe pas. Donc, est-ce que c'est pas normal que l'un des protagonistes refuse de participer à la réflexion sur le plan de paix?
Alors, est-ce que c'est normal? Alors ça, c'est une question posée de manière espiègle. D'abord, je vous dirais que c'est un homme d'affaires qui propose ce plan. Monsieur Trump n'est pas un diplomate, c'est le moins qu'on puisse dire. Lui-même n'avait jamais gouverné un État, même pas un État d'ailleurs fédéré américain. Bon, c'est un homme d'affaires, alors c'est pas un fanon, hein, mais enfin bon. Donc il fonctionne comme un homme d'affaires. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose...
Excusez-moi de vous interrompre, mais il nous reste une minute, Frédéric Ancel,
Alors ça va être très très vite. Donc c'est un homme d'affaires. Netanyahou, lui, est très passionné par l'économie. Et il est diplômé d'ailleurs en économie. Donc pour lui, c'est la clé la plus fondamentale. Donc là, ils sont évidemment d'accord là-dessus. Alors pour vous répondre concrètement, non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas bâtir une paix solide et pérenne si vous n'obtenez pas à minima, l'accord, on va dire, au moins du bout des lèvres, au moins formel, de l'un des deux partenaires. Mais le rapport de force étant ce qu'il est aujourd'hui dans la région et dans le monde d'ailleurs, hein, je crois que l'autorité palestinienne aujourd'hui ne dispose plus de la capacité de peser en réalité dans ces affaires. Ce plan finalement peut être une sortie de crise, mais je ne crois pas, enfin quand il existera vraiment ce plan, mais je ne crois pas que ce soit là le deal du siècle, en tout cas, comme l'annonce M. Trump de manière un petit peu péremptoire.
Merci beaucoup Frédéric Ancel, le temps nous était compté et j'espère qu'on vous rencontrera encore une autre fois pour d'autres problèmes, pour que vous nous apportiez beaucoup de lumière. Merci beaucoup encore d'avoir participé. Bonne semaine à tous et à toutes. On se retrouve dans 15 jours pour une autre émission. C'était Paul Ouzimé, Hersonne à l'antenne, avec Chronique pour la paix.